que vous allez bien. Ce n'est toujours pas Jean Massier, c'est Malek Délégué. Je ne suis pas seul. Je suis avec mes copains, avec Usul ici présent.
Bonjour.
Avec Léa Chamboncel ici présente.
Coucou.
On live un petit peu spécial. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour un jeu de rôle en collab avec Libé, avec Fibre Tigre à la Sorbonne. Mais avant, on voulait donner la parole à ces étudiants mobilisés depuis le début de la semaine. Vous le savez, il y a des collectifs palestiniens là dans toutes les universités qui sont en train de se mobiliser. Et comme beaucoup de mobilisations d'étudiants, mais encore plus sur cette question-là, on les empêche très très souvent de s'organiser, de se mobiliser, de prendre la parole. On est ici devant le centre universitaire de Tolbiac de Paris 1 et on est avec des étudiants parce que le but, c'est de ne pas parler solo. Les copains, venez avec moi. Allez, qui prend la parole en premier? C'est toi. Comment tu vas?
Bah écoute, ça va et toi?
Ça va, je vais te demander de te présenter pour que notre audience puisse te connaître un petit peu.
Oui, bah alors je m'appelle Irène, je suis militante au Point Levé et à Révolution Permanente. Et moi je suis pas étudiante à Paris 1 pour le coup, je suis étudiante à Paris 8 à Saint-Denis. Je suis étudiante et en gros on a organisé lundi une journée de mobilisation en soutien à la Palestine. Aujourd'hui on a recommencé la journée de soutien à la Palestine après la grosse journée du 1er mai d'hier. Et du coup ce matin en fait dès 10h du matin on a été plusieurs dizaines d'étudiants sur la fac à poser des tentes, à décorer le hall de la fac en mettant des banderoles en soutien au peuple palestinien, en mettant des pancartes, des stickers, etc. pour dénoncer le génocide en cours à Gaza, pour dénoncer la complicité de nos gouvernements avec le gouvernement de Netanyahou et aussi pour dénoncer la répression qui est en train de s'abattre sur les étudiants qui se mobilisent en soutien à la Palestine en France mais aussi aux États-Unis. Je voulais aussi d'ailleurs en profiter pour envoyer toute ma solidarité aux étudiants de Columbia, de Yale, de toutes les universités américaines qui sont en train de se mobiliser en ce moment et qui sont en train de subir une répression féroce de la part du gouvernement américain. Donc voilà, en fait, on s'est mobilisé pour tout ça, on va dire.
Tu fais bien de le rappeler, c'est pas un mouvement qui est isolé. Il y a des facs aux États-Unis, des universités américaines, mais pas que. Il y a aussi dans le monde entier des mobilisations de jeunes étudiants qui voient le jour. Usul.
Oui, bonjour. Bah,
parce que je ne suis pas seul, désolé, copain. Des questions, Usul, quelque chose vas-y, je t'en prie.
De quoi des questions? Tu veux que je te pose des questions?
Non, mais non, pas moi. Non, mais Irène vient de parler.
Ouais, moi, je trouve ça assez ouf. C'est la première fois. Alors, j'en ai vu d'autres, des mobilisations étudiantes, mais c'est la première fois que je vois ça sur la base d'une cause internationale. Il y a plus que ça derrière, en fait. La Palestine, ça finit par être aussi le creuset de plein d'autres trucs, l'islamophobie, les luttes anti-impérialistes de manière générale, je comprends un peu comme ça.
Mais évidemment, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut la comprendre, la répression qui est en train de s'abattre sur nous. C'est qu'en fait, nous, on en a conscience, mais les gouvernements aussi en ont conscience, qu'on est en train de participer à quelque chose de très fort, qu'on est en train de participer à un mouvement international. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'ils sont en train d'appeler ça le Vietnam 2.0. C'est parce qu'en fait, ils voient toute une nouvelle génération qui est en train de se politiser sur les questions anti-impérialistes, qui refuse en fait de voir plus de 30 000 morts à Gaza, qui refuse en fait de voir les Palestiniens se faire déporter vers le Sinaï et qui refuse évidemment la complicité de nos gouvernements, qui refuse en fait l'envoi d'armes vers Israël, qui savent très bien en fait que le gouvernement français c'est un des gouvernements qui a aidé l'État d'Israël à acquérir l'arme nucléaire dans les années 1960, que le gouvernement français fin octobre il a envoyé des équipements de mitrailleuses vers l'État d'Israël, que en fait la France et Israël collaborent très régulièrement pour échanger des savoir-faire en termes d'armement. Par exemple, Israël envoie des outils de cyberespionnage qui vont par ailleurs apparemment être utilisés pour les Jeux Olympiques dans quelques mois. Et en fait, tout ça, on en est conscient dans notre génération et on le dénonce parce que effectivement, c'est pas juste la question de la Palestine. Aujourd'hui, on est choqué par ce qui est en train de se passer en Palestine. En fait, on est en train de banaliser un génocide devant nos yeux. C'est le premier génocide du 21e siècle et en fait, on essaie de nous faire passer la pilule de ces génocides-là, donc on le dénonce. Mais effectivement, c'est beaucoup plus large et il y a énormément de questions qui sont en train de s'agglomérer autour de la question palestinienne. Il y a la question palestinienne, mais il y a aussi la question de la crise climatique, de nos conditions de vie. Et aujourd'hui, c'est de ça dont ils ont peur. Ils ont peur, en réalité, que le mouvement pour la Palestine, il s'étende à d'autres questions.
Oui, et ce qui est assez extraordinaire, donc toi, tu es militante à Révolution Permanente. Donc, le Point Levé, c'est la version syndicat étudiant de RP, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et donc, on entend que tu es une militante formée. C'est l'avantage avec RP, ils sont carrés, hein, normalement. j'entendais à la radio ce matin Léa Salamé et d'autres, là, ça parlait un petit peu de ça, chez France Culture aussi, le nouveau Vietnam, machin, mais du coup, ce serait aussi un prétexte pour des gens comme vous, des plus radicaux, qui radicalisent la jeunesse, qui, elle, était plus ou moins pas politisée, qui peut-être, sincèrement, en effet, est choquée par ce qu'elle voit sur TikTok, etc., tu connais ce discours, et que, du coup, vous en profiteriez pour les radicaliser. Alors, est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous radicalisez bien en ce moment, au Point Levé?
Bah, enfin, moi je pense que surtout il faut dénoncer le traitement médiatique qui est en train d'être fait de la mobilisation, parce qu'en fait ils nous attaquent.
Tu me dis ça à moi? Oui.
Non, mais je pense qu'en réalité c'est pas juste le fait de militants ou d'une minorité radicalisée. En réalité, ce qui est en train de se passer, ça reflète un état d'esprit plus général dans la jeunesse. Enfin, ces dernières années, on a vu la jeunesse sortir massivement dans la rue contre les violences policières et le racisme d'État après le meurtre de Naël ou pendant Black Lives Matter. On a vu la jeunesse sortir contre les violences sexistes et sexuelles, contre la crise climatique, pendant la réforme des retraites l'année dernière, après le passage du 49-3 en force par le gouvernement, etc. Et aujourd'hui, ils veulent nous expliquer qu'en fait, ce serait soit le fait d'une minorité radicalisée, d'antisémites, etc., pour décrédibiliser la mobilisation, mais aussi, surtout, pour derrière, faire passer une offensive autoritaire d'ampleur, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont en train de réprimer la jeunesse, mais ils sont aussi en train de réprimer le mouvement ouvrier, le mouvement social, des militants, en fait, de différentes organisations, de la France Insoumise,
comme Rima Hassan. On a vu ce syndicaliste CGT qui a pris un an de sursis pour un tract.
Exactement, et qu'en réalité, ils sont en train d'utiliser la question de la Palestine pour faire taire toute forme d'opposition au gouvernement. À travers, par exemple, l'utilisation de la procédure pour apologie du terrorisme, ils essayent de créer un délit d'opinion. C'est-à-dire que maintenant, tu vas écrire un tract en soutien à la Palestine et tu vas être condamné à un an de sursis. Tu vas faire des tweets en soutien au peuple palestinien, tu vas être convoqué pour apologie du terrorisme par la police. Et ils sont en train d'utiliser tout ça pour derrière préparer la répression des prochains mouvements, pour derrière préparer la répression des militants syndicalistes ouvriers qui vont faire grève pendant les Jeux Olympiques, préparer la répression des étudiants qui vont dénoncer la précarité étudiante et la dégradation de nos conditions de vie, préparer la répression des jeunes femmes qui vont sortir en fait contre les violences sexistes et sexuelles, contre l'impunité, etc. Enfin, c'est pour préparer en fait les esprits à cette répression-là qu'ils sont en train aujourd'hui d'utiliser, de convoquer des militants de toutes sortes, d'envoyer la police dans les
commissariats. On a parlé de la police, on a parlé du gouvernement, mais dans l'extrême droite, il n'y a pas que la police et le gouvernement. Il y a aussi des petites milices, des étudiants de droite qui sont un peu chauds. Il y a l'UNI, il y a d'autres groupuscules. Vous la sentez, la menace? Il y en a qui la sentent, il y en a qui l'ont déjà éprouvée ou qui ont vu des trucs déjà? Parce qu'on ça s'est vu sur des campus, hein, la droite qui, les jeunes de droite qui viennent pour démobiliser les jeunes en leur pétant la gueule. Ça s'est vu à Toulouse, il y a eu une affaire où il y a même carrément une complicité de la part d'un des profs qui a été viré, il me semble, depuis. Mais est-ce que vous la sentez, cette pression au-delà de la police, mais aussi des groupuscules d'extrême droite?
Je vais te demander de te présenter d'abord.
Hein. Oui.
Moi, je m'appelle Marion, je suis militant à l'UNEF, une association d'études en France. Cette répression, en effet, on la ressent, et déjà, je vais rebondir sur la radicalité du milieu étudiant. C'est-à-dire que cette radicalité, elle n'est pas simplement encouragée par les organisations. Nous, justement, on surfe aussi sur cette radicalité. Mais depuis notamment la réforme des retraites de l'année dernière, il y a une vraie radicalité dans le milieu étudiant. Et les étudiants même réclament, en fait, des mouvements qui sont de plus en plus radicaux. Par rapport justement à tous les...
À partir de quand on est radical? C'est quoi radical?
Enfin, on entend radical dans le sens où les mouvements sont de plus en plus massifs. Et en fait, on utilise, disons, une
violence... Massif et pas radical.
C'était pas radical, mais une violence légitime qui est plus importante. Les blocages qui se systématisent, les AG dans lesquels on est de plus en plus nombreux, etc.
Mais ça, tu vois, je me dis, du coup, oui, le gouvernement va dire que c'est radical. Moi, je trouve pas ça radical de faire des AG ou de faire des manifs. C'est pas ça radical. Si on accepte de dire que ça, c'est radical, on se coupe l'herbe sous le pied nous-mêmes.
Ouais, bien sûr, mais après, c'est que... On dit souvent que le milieu étudiant n'est pas politisé, alors que c'est complètement faux. La jeunesse aujourd'hui, elle s'engage, elle se positionne sur des questions qui sont très fortes. Et c'est justement dans ce sens-là où on voit aussi une prise de conscience générale dans le milieu étudiant.
Voilà. On est ici, on vous l'a dit, parce que je voyais dans le chat, vous étiez en train de demander où nous sommes. On est devant le centre universitaire de Tolbiac. Alors on ne va pas filmer les agents de sécurité, mais comme vous pouvez le voir, les grilles sont fermées. Donc les étudiants ne peuvent pas accéder et se réunir. Qui peut nous expliquer un petit peu, là, Léa, tu es avec moi, qui peut nous expliquer un petit peu ce qui se passe à Tolbiac là depuis ce matin?
J'ai discuté un peu avant qu'on commence l'émission avec vous deux, enfin surtout toi, qui m'expliquait qu'en fait, en gros, votre crainte principale, c'est de voir qu'on vous donne pas d'espace pour discuter, pour vous organiser. Du coup, comment vous faites pour faire vivre ce mouvement en dehors de vos espaces traditionnels de rencontre, à savoir l'université?
Bah, peut-être je me présente d'abord. Du coup, je m'appelle Lou, je suis de l'Union étudiante, donc je suis aussi étudiante à Paris 1. Et en fait, là, on a fait ce blocage, on a commencé parce qu'en fait, c'est le seul moyen qu'on nous donne pour nous exprimer, parce qu'en fait, on a demandé à avoir des salles, à avoir des amphis, à faire des rencontres avec des personnes pour parler de ce qui est en train de se passer à Gaza, pour parler de la cause palestinienne. Mais en fait, à chaque fois qu'on demande ça, ils nous refusent de nous donner des salles, de nous donner des amphis. Donc en fait, fait, là, en fait, on nous empêche de nous exprimer et nous, on considère que l'université, c'est aussi un lieu où on peut débattre politiquement, où on peut parler d'actualité et on nous permet pas ça. Et donc, on a décidé de bloquer. Mais là, comme vous l'avez dit, en fait, c'est à l'université qui est fermée. Et en fait, de faire la fermeture administrative du centre, nous, ça nous empêche aussi de nous organiser parce que là, on voulait bloquer pour faire une AG et qu'ensuite, on puisse parler de ce qu'on fait après dans la suite du mouvement pour qu'on puisse s'organiser, pour qu'on puisse continuer à se battre et à décider collectivement de ce qu'on va faire. Et en fait, ça a été empêché par l'université parce qu'en fermant l'université, comme je l'ai dit, ils nous empêchent. Là, on a été obligés de sortir. Sinon, il y avait la police qui allait arriver avec les CRS et tout ça pour juste nous dégager de la fac, en fait.
Et du coup, dans ces moments-là, quand vous avez des moments où en fait vous essayez de vous rencontrer, vous essayez de vous réunir et que finalement vous n'avez pas accès à ces lieux pour discuter, pour vous organiser, comment vous réagissez ? Là, qu'est-ce que vous avez prévu du coup ?
Pour cet après-midi, je m'appelle Shane, je suis en philo ici à Tolbiac, je suis aussi à l'Union étudiante. Alors pour ce soir, il y a une AG Interfac qui est prévue à Paris 8, si je ne me trompe pas, à 18h30, donc ça va être l'occasion pour les étudiants de Paris 1, de Paris 4, de Paris Cité, de Sorbonne Université, enfin un peu de toutes les facs de la région parisienne, de s'organiser et de se poser les questions sur comment on continue cette mobilisation sur la cause palestinienne. Je vais aussi revenir sur la politisation des jeunes. Moi, je ne pense pas que les jeunes soient politisés, mais je pense qu'en fait, on est une génération qui a été déçue à multiples reprises. On a connu que des gouvernements de droite. On est la génération de Macron, de Hollande, de Sarkozy. Et en fait, on a une jeunesse qui est déçue. Et cette jeunesse, je pense qu'en fait, on a réussi collectivement, que ce soit les organisations ou même les étudiants qui s'organisent par eux-mêmes, en fait, à les réveiller, à leur montrer que oui, le problème, en fait, il continue, qu'il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas, en fait, prendre ça pour une fatalité de dire, oui, le gouvernement, il est nul à chier, oui, clairement, mais on peut bouger, on peut faire des choses, on peut radicaliser le mouvement, on peut agir. En fait, on a beaucoup de gens qui sont politisés, mais en fait, qui n'ont pas réussi à agir par eux-mêmes. Et là, ce mouvement a réussi à ramener tous ces étudiants-là qui étaient ralliés à notre cause et à les faire agir et à se mobiliser tous ensemble à l'échelle de la fac, d'une part, et aussi à l'échelle des étudiants au global, comme cette AG Interfac le montre.
Les amis, petite question pédago, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une AG ? Parce qu'il y a peut-être des gens dans le chat qui n'ont jamais vécu d'AG.
Bonjour, donc moi c'est Adrien, je suis au point levé aussi, je suis étudiant à Paris 1. Mais en gros, une assemblée générale, c'est un moyen pour les étudiants de prendre en charge une mobilisation. C'est un moment où, en fait, toute notre vie, on répète qu'on n'a pas le droit de participer à la démocratie, ou alors on participe qu'aux élections, tu votes et puis point barre. Mais en fait, il y a un moment où quand on prend en charge une mobilisation, qu'on veut porter des revendications, etc., et ça implique d'organiser une démocratie directement. Et du coup, une assemblée générale, c'est un moment où on va massivement, en tant qu'étudiant, on va être les centaines à décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on va revendiquer, de comment on va porter notre combat, etc. Et ça implique du coup de prendre un peu un risque, parce que tous les étudiants doivent se mettre dans la mobilisation, ils doivent se mettre en âme et conscience dans ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est aussi en fait un pouvoir pour nous les étudiants, et pour c'est l'auto-organisation, c'est une tradition du mouvement ouvrier aussi, c'est une manière pour reprendre en main le politique, et donc c'est vraiment un outil politique hyper puissant.
On est avec aussi Ewen qui est à côté de moi, je te donne le micro.
Bonjour.
Est-ce que tu es mobilisé toi ?
Alors moi je suis mobilisé, mais je suis en L1, donc j'ai un peu juste d'arriver.
Okay.
Donc c'est grâce à toutes les personnes qui ont parlé que je suis là aujourd'hui.
Ok.
Faut savoir que quand tu arrives à la fac, c'est pas vraiment facile de se mobiliser. En fait, le premier jour, y a les syndicats qui se présentent. Et en fait, ça fait plaisir de voir des gens qui sont pas syndiqués venir te prendre par la main, te dire voilà, il y a une AG dans 3 heures, viens avec nous bloquer la fac, c'est pour ça, on a des votes. Un fonctionnement démocratique, ça fait plaisir. Tout le monde veut participer. En fait, c'est assez impressionnant de voir comment on arrive à s'autogérer. Il n'y a pas véritablement de patron, en fait, c'est fou. Et c'est vrai que dans la société actuelle, on ne ressent pas vraiment ce mode de...
C'est ta première mobilisation, toi, ou
ouais,
tu t'es déjà mobilisé par le passé ?
Je me suis mobilisé en manifestation,
okay.
Mais jamais à la fac, parce que du coup, c'est ma première manifestation à la fac. Donc ça fait plaisir.
C'est une belle expérience.
Ouais, c'est une belle expérience.
Okay. Cool. Les amis, je te reprends le micro, Ewen, je te remercie. Qui peut m'expliquer un petit peu, parce que là, il y avait beaucoup de camarades, beaucoup d'autres étudiants qui étaient devant Tolbiac, et tout le monde est parti en mouvement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer là où ils sont ? Et surtout, est-ce qu'on va les rejoindre ?
Tac. Bonjour, moi je me présente.
S'il te plaît.
Je m'appelle Jules, je suis militant du coup à l'UNEF, le syndicat étudiant.
Oui.
Du coup, ils sont tous partis en fait là. Du coup, on était devant, on est tous sortis parce que du coup, le centre a fermé administrativement. Mm-hmm. Ils sont tous partis du coup au centre Grand Moulin, enfin Paris 7, Paris Cité quoi.
Ok.
Ils sont allés en fait suivre, du coup, comme disait mon camarade tout à l'heure, d'une autre organisation, mais mon camarade quand même. Voilà, à propos des agents interfac, là on peut voir que beaucoup de facs parisiennes en fait se mobilisent, et même en dehors de Paris, en banlieue, et même
dans toute la France. Bien sûr.
On a vu à Saint-Etienne, c'est passé, l'IEP de Lille hier, voilà. Et du coup là par exemple, c'est un bel exemple de justement de mobilisation interfac parisienne. Là, à Paris City, il se passe qu'il y a un blocage et peut-être une manif qui va partir après.
Okay.
Bah, du coup, étudiantes et étudiants mobilisés à Paris 1, nous, bah, du coup, on décide de s'ajouter à ce mouvement-là pour vraiment les soutenir, pour mobiliser en fait toutes les facs de Paris. Quoi.
Donc là, vous comptez aller les rejoindre ?
Exactement.
Eh bah, ben, je vous propose qu'on y aille tous ensemble. C'est parti. On va se mettre en marche. En marche, c'est pas le bon terme. Désolé. Pardon. On va avancer tout doucement. Les copains.
Grande marche. C'est une grande marche. Voilà, c'est plutôt dans ce sens.
La grande marche de Macron, c'est pas ça.
C'est qu'il y a 250 personnes derrière nous. Et pour des raisons de sécurité, on vous les montrera pas. Mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde sur place, non? Vous savez un peu combien il y a de gens sur place là?
Okay. Surprise, alors. Les amis, après ce live, vous allez m'appeler Michael Jackson. Parce que je vais faire tout ce live pour ma cadreuse. Parce que je la remercie pour son travail. Je vais le faire en marche arrière. À tout moment, je peux tomber. Et ça va faire une petite séquence, en vrai.
Oui,
ça va faire
voilà.
Une petite séquence. Donc, pour ceux qui nous retrouvent, on est en live spécial devant l'université de Tolbiac, parce que des étudiants se mobilisent à travers toute la France sur la question palestinienne, mais pas que. On a eu l'occasion d'en parler avec eux. On se dirige donc vers un autre point, parce que on l'a dit, la mobilisation la concerne plein de facs à Paris.
Moi, j'ai d'autres questions. Hein,
sinon... J'ai pas bossé mon cardio depuis une semaine. Je crois que je le sens.
J'ai d'autres questions.
Vas-y.
Oui. Tiens, allez, je reprends. Je reste avec toi. Je t'aime bien, moi. On va faire. Il y a eu AG ce matin. Est-ce qu'il y a déjà une coordination, genre interfac, machin?
Alors, il y a une interfac ce soir, normalement, à 18h30. Je crois que c'est à Paris 8. Du coup, j'ai pas tout suivi vu que je suis venue pour le live. Mais il me semble que ce sera à Paris 8. Et d'ailleurs, je voulais en profiter parce que demain, à 14h. Attends, moi aussi, je vais me mettre en arrière. Demain, à 14h, au Panthéon, on organise un grand rassemblement qui est appelé par, en gros, à peu près l'ensemble des organisations étudiantes. Ce sera à 14h au Panthéon. Et l'idée, c'est justement de pas s'adapter au calendrier universitaire. Parce que je sais que c'est la fin de l'année, que tout le monde est en partiel, que les cours, ils vont bientôt s'arrêter, etc. Mais nous, faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faut qu'on continue la mobilisation étudiante jusqu'au bout. Et si on peut pas la continuer dans nos universités, on peut quand même la continuer en se coordonnant les différentes universités. Donc il faut venir nombreux et nombreuses demain à 14h, place du Panthéon.
Alors il y a des revendications. À Sciences Po, il y avait des revendications assez claires sur les partenariats, etc. Est-ce que là, ça a été discuté aussi ce matin? Quelles peuvent être les revendications concrètes du mouvement étudiant concrètement ici à Tolbiac, mais dans d'autres facs? On reste sur ce. Il y a eu des choses là-dessus?
Bah nous, on revendique évidemment l'arrêt des massacres à Gaza.
Mais voilà, mais ça, c'est un peu large. Mais...
On revendique aussi l'amnistie de tous les étudiants, enfin déjà de tous ceux qui ont été réprimés, interpellés. Par exemple, hier au 1er mai, il y a eu une cinquantaine d'interpellations. On revendique aussi le retrait de toutes les sanctions contre les étudiants mobilisés comme à Sciences Po, puisque la direction de Sciences Po finalement avait décidé d'annuler les sanctions. Puis Retailleau a annoncé l'annulation de l'annulation des, sciences, des sanctions. Pardon.
Donc Retailleau, la ministre de l'enseignement supérieur.
Exactement. Donc on revendique le retrait de toutes les sanctions contre les étudiants mobilisés, l'arrêt des partenariats à toutes les universités qui en ont avec l'État d'Israël, et évidemment l'arrêt de la répression contre les étudiants, le fait de pouvoir exprimer librement notre soutien au peuple palestinien dans les universités, etc.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont pas encore parlé, qui ont un mot à dire, et qui en plus ont envie de le faire en marchant?
J'ai une petite séquence folle, c'est que j'ai Léa qui veut poser une question à Eléa. Oui.
Merci beaucoup. Moi, je me posais la question de savoir, est-ce que, en dehors des étudiants et des étudiantes qui se mobilisent à Paris et dans d'autres villes de France, il y a d'autres catégories de la population qui veulent rejoindre le mouvement? Et comment vous allez chercher d'autres personnes en dehors de la catégorie étudiants-étudiantes?
D'abord, sur les étudiants. Même sur les étudiants. Je pense que c'est intéressant de voir que là maintenant ça a repris beaucoup d'élan et que justement c'est peut-être moins mixte qu'au début de la mobilisation pour la Palestine qui a commencé du coup en octobre dans les facs, on se mobilisait déjà. Et donc en termes de est-ce que les secteurs de la population diverse veulent se mobiliser, moi je pense que oui et ils l'ont déjà montré en début d'année.
Comment vous arrivez à être un peu, tu vois, genre le point névralgique de cette mobilisation? Parce que quand on pense à beaucoup de mobilisations, souvent ça pouvait partir d'un mouvement étudiant ou d'un mouvement ouvrier, et puis il y avait des alliances, des luttes. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez? Et comment vous l'envisagez?
Oui, je pense que...
Est-ce que vous commencez à parler avec les syndicats, enfin, tu vois, d'autres mouvements, quoi?
Peut-être que, Irène, tu saurais plus précisément, mais je pense que... C'est un point très important, justement, l'alliance en fait qu'on pourrait faire entre étudiants et travailleurs. Et que, en fait, justement, c'est pas juste est-ce que c'est possible, mais je pense que c'est même nécessaire. Quand on parle de nous, on parle de la complicité de nos universités avec le génocide, avec la colonisation, mais on pointe aussi celle du gouvernement qui pointe tout. Et ça, je pense qu'on peut l'attaquer plus frontalement et plus efficacement. Enfin, c'est le seul moyen même, en fait, quand on le fait en alliance avec le mouvement ouvrier. Donc nous, la question de comment on le fait, est-ce que tu peux dire, mais moi je pense que c'est absolument central et que c'est très important.
Bah oui, grave. Non mais moi je pense que ça c'est un point qui est vraiment central, parce qu'en réalité quand on dit Vietnam 2.0, c'est pas anodin, parce que Vietnam 2.0 c'est la mobilisation de la jeunesse en 1968, mais c'est aussi derrière le début de mai 68, le début de la grève générale, et en réalité le grand mouvement étudiant de mai 68, derrière il a stimulé l'irruption des travailleurs de la grève générale, etc. Donc aujourd'hui s'ils sont en train de nous réprimer, c'est aussi parce qu'ils ont conscience que l'année dernière il y a eu un mouvement d'ampleur pendant les retraites, qu'il y a eu des mouvements de grève massifs notamment chez les éboueurs, dans les transports, etc., et qu'ils ont peur que ça recommence, qu'ils ont peur aujourd'hui que les étudiants s'allient aux travailleurs comme ils l'ont fait l'année dernière. Enfin là, le chemin qu'on est en train de faire, c'est à peu près le même chemin qu'on faisait il y a un an pour aller aider les éboueurs des Tirus dans Paris à bloquer leur lieu de travail. Donc évidemment ils ont peur de ça, et c'est aussi pour ça qu'ils sont en train de réprimer le mouvement ouvrier, que Jean-Paul Delescot il s'est pris un an de sursis, etc.
Du coup, quels sont, très concrètement, parce que là tu me réponds un peu en théorie, mais même si en pratique je vois bien ce que ça donne, hein, mais concrètement, est-ce que vous êtes en discussion avec d'autres mouvements? Est-ce que vous êtes en train de la préparer, cette alliance? Et comment?
Bah, nous, de façon Révolution Permanente, on est, enfin, le point levé, c'est notre collectif étudiant, mais à Révolution Permanente, on a aussi des camarades qui sont travailleurs dans les transports, à la RATP, à la SNCF, dans les raffineries, etc. Donc, au quotidien, nous, on travaille et on milite avec nos camarades travailleurs. Typiquement, le cortège du 1er mai qu'on a fait hier, c'était un cortège étudiant-travailleur pour expliquer, en fait, pour rappeler l'importance de mettre un plan de bataille aujourd'hui, de poser un plan de bataille face à la situation qui est marquée par des traits réactionnaires très très importants. Et typiquement, je pense qu'il y a une question qui est essentielle, c'est la question des directions syndicales qui aujourd'hui ne disent aucun mot sur la question de la Palestine, qui ont fait de la journée d'hier une journée totalement routinière sans proposer aucun plan de bataille. Et que justement aujourd'hui, très concrètement, il faut qu'on organise l'alliance étudiants-travailleurs. Donc typiquement, nous, on envoie toute notre solidarité à Jean-Paul Delescot. Aussi, on a un camarade qui est travailleur dans l'agroalimentaire, qui est en train de se faire réprimer par son patron. Nous, on a organisé plusieurs rassemblements en son soutien, etc. Donc, pardon, je suis un peu essoufflée de parler en marchant. Mais évidemment, même la question des Jeux Olympiques, ça va se poser. La question d'aider les travailleurs à faire grève.
Est-ce qu'il y a des lieux de rencontre où pour le moment c'est pas du tout mis en place? Parce que j'entends bien, hein, l'intention, la volonté de s'allier, mais est-ce que vous envisagez, je sais pas moi, une AG de grève générale, quelque chose de plus d'ampleur qui dépasse en fait le mouvement étudiant?
Moi, je pense que ce serait très intéressant. Enfin, je pense qu'en fait, il y a plusieurs phénomènes de grève par-ci, par-là. Par exemple, il y a les travailleuses de Nola, qui sont des travailleuses de nettoyage, qui sont en grève depuis plusieurs semaines. Enfin, il y a des mouvements de grève par-ci, par-là. Comme je disais tout à l'heure, notre camarade qui travaille dans l'agroalimentaire, ses collègues se sont mis en grève pour réclamer sa réintégration après qu'il se soit fait menacer de licenciement par son patron, etc. Donc, évidemment que c'est des questions qui sont très, très importantes et qu'il va falloir voir comment est-ce qu'on organise la jonction. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien avec Révolution Permanente, le point levé, etc.
Super. Il y a d'autres personnes qui veulent répondre là-dessus et qui ne sont pas représentantes de RP, par exemple, qui aimeraient prendre la parole sur comment faire en sorte que ce mouvement étudiant dépasse les facs, en gros.
J'ai des petites questions encore.
Il y en a qui veulent répondre là-dessus? Non.
Bon, on va continuer de marcher. Est-ce que quelqu'un peut me guider?
Lunef a forcément une petite idée sur la question.
Tiens, Waze, impec. Parce que il faut sachez que, comme dirait l'autre, que vous le savez, je n'ai pas mon bac, je n'ai jamais mis mon pied à la fac. Donc déjà je suis admiratif de tous ceux qui sont autour de moi. Et j'ai plein de choses à apprendre. J'ai envie de savoir, par exemple, qui peut me répondre sur... il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous dites à la fac. Oui. Viens mon ami. Hop là.
Oui.
Viens à côté de moi. Il y a des personnes... J'ai perdu ma cadreuse qui est derrière moi, non c'est parfait. Il y a des personnes qui sont pas d'accord avec vous forcément à la fac.
Il y en a, oui.
Il y en a beaucoup, il y en a, c'est comment?
Alors en réalité je pense qu'il faut différencier, enfin Tolbiac c'est quand même une spécificité de Paris. Hein. Mm-hmm. Là où à Tolbiac il y a le culture de la mobilisation en réalité à Paris. Oui. Si on prend des centres comme Cassin, comme Lourcine, où c'est les centres de droit, effectivement c'est là où se concentrent généralement les étudiants qui sont soit pas d'accord avec nous, qui sont contre Bocage, les étudiants qui sont clairement fachos, de l'Uni, de la Cocarde. Mm-hmm. L'extrême majorité, ils sont en droit à l'Oursine. Donc je pense qu'il faut aussi différencier ça. Sur les gens de Paris 1, je pense qu'on a quand même réussi sur ce mouvement-là à quand même avoir une sorte de consensus général de... parce qu'il faut que je réexplique un peu le contexte de Paris 1, c'est que la mob, elle n'a pas commencé spécifiquement sur la Palestine. Il y a eu autre chose aussi à Paris 1 avant, dans les dernières semaines, sur une réforme du règlement de cours de connaissance où, ça, où l'administration a voulu supprimer les absences, la compensation, le rattrapage.
Okay.
Ça a lancé une grosse mobilisation parce que ça touche tout le monde, hein, les absences, le rattrapage, le fait de pouvoir redoubler. Donc il y a eu ça, et puis cette mobilisation ensuite a évolué dans la dernière semaine sur une mobilisation purement sur la Palestine, sur l'anti-impérialisme, sur l'anticolonialisme.
Unitaire au niveau des syndicats ?
Unitaire au niveau des syndicats, et aussi avec les autonomes de Paris 1 qui sont hors syndicats, et aussi les étudiants lambda qu'on a pu voir
tout
à l'heure, qui est en L1, qui n'est pas du tout syndiqué, mais qui se mobilise. Et on a réussi à faire évoluer cette mobilisation, une mobilisation purement Paris 1, purement locale, à une mobilisation qui est nationale de sur la Palestine. On l'a vu aussi hier... pendant le premier, ici comme ça, parfait. Et on l'a vu aussi hier au premier mai, on avait beaucoup d'étudiants de toutes les facs qui sont venus. On avait des beaux cortèges pour la cause palestinienne hier au premier mai, et on voit que les étudiants quand même, ils se sentent concernés par cette cause. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai.
Votre réaction face à ceux qui sont pas d'accord avec vous, comment c'est... déjà, est-ce qu'ils manifestent leur désaccord? Comment ça se passe?
Alors à Tolbiac, on en a quelques-uns, il y a pas, c'est pas énormément. Au niveau des actions sur cette mobilisation-là, on n'a pas eu, je crois. Mais je pense que mes camarades pourront me rectifier si besoin. On n'a pas eu d'attaque de l'extrême droite, etc. On n'a pas eu d'intimidation. Parce que aussi à Tolbiac, enfin ils savent que ils savent qu'à Tolbiac ils sont pas. En fait ils sont nuisibles. On ne veut pas d'eux à Tolbiac. Et à Tolbiac ils peuvent pas mettre un pied. Et c'est aussi ça la force de Tolbiac, c'est qu'il y a une sorte de d'unité sur le campus au global d'étudiants qui sont contre l'extrême droite, qui sont pour la cause palestinienne, pour les causes progressistes. Et ça c'est beau à voir parce que c'est pas du tout le cas dans toutes les facs, très loin de là. Mais c'est beau à voir à Tolbiac.
Qu'est-ce que tu réponds à... Parce que je suis aussi là un petit peu pour me faire l'avocat du diable. Dans le chat, j'avais des personnes qui étaient en train de me dire « Oui, mais qu'est-ce que ça va changer en Palestine de savoir que des facs à Paris sont en train de se mobiliser ?» Alors, ma question, elle est volontairement provocatrice, mais pour que tu puisses y répondre.
Bon, déjà, je pense qu'il y a déjà une preuve du soutien en fait d'un mouvement étudiant qui est national, qui se milite pas à Paris, qui se limite pas à Paris. On l'a vu à Sciences Po, je sais, à Lille, on l'a vu à Lille, on l'a vu à Saint-Etienne, à Grenoble, un peu partout en France, des mouvements de soutien à la cause palestinienne qui se font à l'échelle nationale. Il y a aussi la pression qu'on met sur nos universités qui font des partenariats avec des universités en Israël et qui soutiennent aussi, pour certaines, le génocide en Palestine. C'est aussi leur mettre la pression et les forcer à avouer en fait leur position très clairement sur la cause palestinienne et les forcer à arrêter ces partenariats, à arrêter aussi de réprimer les étudiants qui se mobilisent pour la cause palestinienne. C'est mettre les universités devant leurs problèmes et leur dire vous soutenez le génocide en Palestine. Nous, on vous le montre, et maintenant, il va falloir se positionner très clairement. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et on les force à faire ça. Et preuve en est, ils veulent pas nous laisser parler parce qu'ils savent qu'ils sont en tort.
Comment ça se passe quand on vous empêche de vous réunir, de vous mobiliser, de mener des actions? C'est quoi, là, la suite de la mobilisation?
Au niveau de Paris 1?
Au niveau de Paris 1, oui.
Bon, là, ça fait quelques jours qu'on a la fermeture des centres.
C'est la réponse de l'administration face à votre mobilisation.
Très clairement. Et ça fait quelques jours, parce que ça a bloqué pendant deux semaines avant. On n'a jamais eu de fermeture de centre. En fait, c'est uniquement les profs qui avaient des mails pour dire le centre est fermé. Les étudiants n'ont jamais eu de mail avant la semaine dernière.
D'accord.
Là, maintenant, ils commencent à nous envoyer des mails parce qu'en fait, ils veulent arrêter la mobilisation par la force en disant les étudiants, s'ils sont pas à la fac, de toute façon, ils peuvent pas se mobiliser s'ils sont pas à la fac. Et c'est ça la réponse de l'administration. En fait, c'est nous empêcher de nous mobiliser, de nous organiser parce qu'ils savent que le mouvement est massif et parce qu'ils savent qu'on peut leur faire une réponse radicale.
Ouais, et un peu de la même manière qu'ils ont essayé d'essouffler le mouvement des Gilets jaunes en fermant les ronds-points, là l'idée c'est de fermer les facs.
Ah oui, très clairement.
Toi, t'as des liens aussi avec d'autres facs
Nous,
parce que toi t'es chez qui toi déjà?
À l'Union étudiante.
T'es à quoi?
L'Union étudiante.
Ah oui, c'est le nouveau truc ça.
C'est ça.
T'en raconte-nous, c'est quoi l'Union étudiante? C'est la fusion de quoi et de quoi?
Alors en gros, jusque...
Ou c'est une scission? C'est l'inverse?
Alors, c'est un peu complexe. Ça dépend à qui on demande.
Ouais.
En gros, il y avait l'Alternative qui était un syndicat étudiant qui est une fracture de l'UNEF de 2019, qui du coup était présent avec l'UNEF en parallèle.
Attends, fais la version courte parce que là, moi ça m'intéresse, mais j'ai peur que les gens décrochent un peu.
Du coup, il y avait l'Alternative et l'UNEF qui cohabitaient jusque l'an dernier. Il y a une partie de l'UNEF qui est partie de l'UNEF pour rejoindre l'Alternative. Et ces deux morceaux ont créé l'Union étudiante.
D'accord.
Qui est maintenant, du coup, le premier syndicat étudiant au niveau des CROUS. Et au niveau du CNUS, du coup, le CROUS national.
D'accord, très bien. Bon, donc là, le programme, donc dans les semaines à venir, c'est étendre le mouvement. Et donc toi, tu es au moins en relation avec les autres camarades du même syndicat de partout en France.
Exactement, c'est ça.
Et donc une assemblée des assemblées, c'est ça le truc.
Alors, pour l'instant, on a l'interfac parisienne du coup ce soir.
Ouais, parisienne d'abord, ouais.
J'imagine qu'il y a aussi des interfacs dans les autres régions de France. J'imagine qu'il y en a parce que, bon, on le sait, la cause pestinelle, elle touche toutes les facs en France. Et ensuite, est-ce que ça va créer une mobilisation nationale? Je l'espère, hein. Je l'espère, mais le mouvement, le problème aussi, c'est la temporalité. C'est que là, on est tous en période de partiel d'examen,
ouais.
Qu'on a des étudiants qui peuvent pas se permettre de redoubler parce que bah ils vont perdre la bourse, etc. Donc c'est aussi compliqué pour les étudiants de se mobiliser, surtout cette période. Mais j'espère que le mouvement va pas s'essouffler et qu'il va pas s'arrêter. Du coup, bah pour Paris 1 demain, le jour des vacances.
Et parce qu'il y a toujours cette question des lieux, quoi. Où est-ce qu'on fait les
trucs,
quoi.
C'est ça le gros problème, c'est que bah si on nous laisse même pas la fac pour nous organiser, en fait. Bah là, on a les rassemblements devant le Panthéon, comme celui qui va y avoir demain à 14h. Il y a celui aussi de la semaine dernière qui a été largement réprimé par les CRS, ouais, avec une NAS qui a duré 4
heures. J'étais
au Panthéon jeudi
dernier.
J'étais
au Panthéon, d'accord.
Une NAS qui a duré quand même 4 heures, je crois. Des CRS qui frappent des gens à coups de matraque, qui embarquent des gens en pleine rue avec des touristes qui se font avoir et qui savent pas ce qui se passe et qui eux aussi se font réprimer sans raison. C'était
alors
quand même assez violent.
Le traitement médiatique, comment t'as trouvé ça? Est-ce que vous avez vu des médias sur place? Est-ce qu'ils essayaient d'interroger les étudiants? J'ai pas trop vu ça, moi. J'ai surtout vu des gens en plateau qui disaient que c'était scandaleux, mais j'ai pas trop entendu des étudiants qu'en parler.
Moi, je dis, j'ai pas vu de médias.
Pourtant, le sujet les fascine.
Oui, mais en fait, le traitement médiatique qu'on reçoit, mais c'est pas que les étudiants. C'est aussi les travailleurs et les travailleuses qui se mobilisent, c'est aussi les personnes qui se mobilisent pour la cause pétitionnelle, et on sait qu'il y en a plein. On sait qu'il y en a plein en France. En fait, on passe, je vais le dire clairement, on passe pour des antisémites, on passe pour des gens qui veulent tout casser, pour des gens qui sont pas dans le respect de la démocratie. Mais en fait,
exactement.
Le problème qu'il y a, c'est que le respect de la démocratie, oui, mais on nous laisse pas nous exprimer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on se soumet à ce gouvernement?
Alors il y avait le truc des mains rouges, par exemple.
Oui, j'ai eu ça à Sciences Po.
Donc pour résumer, en gros...
En fait, on nous fait passer
oui.
pour les agresseurs, très clairement.
Il y avait,
et c'est le gouvernement qui se victimise. Et qui dit, mais regardez, ces sales gauchistes qui nous attaquent, ils sont antisémites, en plus ils respectent pas les lois, c'est quoi la démocratie? Mais c'est, je pense que les victimes, faut se le rappeler, c'est quand même le peuple palestinien. C'est quand même fou qu'en fait on ait inversé ce rapport victime-agresseur et que ce soit aujourd'hui le gouvernement qui se victimise.
D'accord, je crois que Malek voulait reprendre Non, Malek est reparti. Très bien, ok. Très bien. Bon, Léa, pareil, oui. tu enchaînes?
Allez. Je vais bien trouver des choses à vous demander quand même. Ouais, okay. Globalement, sur chacun et chacune représente des facs différentes, ça j'ai pigé. Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement au sein des facs dans lesquelles vous êtes prend vraiment? Et à combien vous pourriez éventuellement estimer en pourcentage précis le nombre de participants dans chacune de vos facs? Genre, c'est plutôt 80%, 10%, 5%?
Malheureusement, du coup, comme on disait tout à l'heure, les étudiants, en fait, surtout pour la cause palestinienne, parce que c'est vraiment une cause qui mobilise les gens, qui fait bouger les gens vraiment, parce que on voit littéralement un génocide devant nos yeux. Du coup, forcément, voilà, on est tous outrés. Et du coup, face à nos réactions aussi du gouvernement. Et du coup, nous, par exemple, à Paris 1, moi, je suis militant à Tolbiac, voilà, et à Paris 1 en général, justement, ce mouvement-là, il permet, parce qu'on voit, il y a des amphis qui sont remplis, voilà, entre orgas, même avec des étudiants qui sont mobilisés en dehors d'organisation, on est tous mobilisés et on voit que même nous, au début, membres d'organisations militantes, qui essayons du coup de lancer le mouvement, en fait, on a vu que même sans ça, en fait, les étudiants se lancent d'eux-mêmes, même sans organisation étudiante. Et du coup, ça, c'est vraiment important et on voit vraiment que il y a vraiment une ferveur par rapport à ça.
Et est-ce que vous avez des liens avec les partis politiques? Est-ce qu'il y en a qui sont venus vous voir, qui sont venus vous soutenir vos mobilisations?
Dans nos mobilisations? Alors non, pas pour le coup à Tolbiac, nous ici, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'hier, il y avait beaucoup de médias, voilà. Mais c'est pareil, par exemple, on a vu aussi, je voulais parler aussi de, par exemple, dans ce qui est soutien, on a vu par exemple tout ce qui est soutien à ce qui s'est passé à Sciences Po.
Ouais.
Parce que ça a fait vraiment le tour du monde, voilà. Parce que aussi Sciences Po, c'est comme en tant que grand lieu d'études, sélectif aussi, élitiste aussi, comme voilà. Ça a fait vraiment le tour du monde. On a vu sur tous les médias internationaux, il y avait Al Jazeera qui a repris, tout ça. Et on a vu que par exemple, ça a vraiment misé. Par exemple, tout à l'heure on parlait de la répression, et on a vu que par exemple Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, a décidé de retirer les subventions
à Sciences Po.
Ouais. À Sciences Po.
C'est hallucinant. autre question que je me posais. Beaucoup de personnes font état du fait que le dialogue est impossible, que c'est excessivement polarisé. Bon, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que vous arrivez à dialoguer aussi avec des personnes qui veulent pas forcément soutenir le mouvement, ou est-ce que c'est une amplification lunaire de la part des médias et des politiques?
Alors en vrai, au niveau des étudiants, bah on arrive vraiment à convaincre. C'est vraiment une cause qui arrive à convaincre. Et même comme disait Shane tout à l'heure, en fait à Paris 1, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti d'une lutte qui était au niveau de nos droits d'étudiants, que ce soit la compensation des rattrapages, mais ça concerne directement en fait les étudiants. Du coup forcément ça, ils prennent ça en compte. Et bah, comme je disais, la Palestine pour le coup c'est quelque chose qui mobilise beaucoup. Voilà, du coup forcément on arrive à convaincre. Exactement.
C'est pas le clash permanent comme on essaie de nous faire croire, quoi.
Exactement, voilà.
On en parlait, rappelle-moi ton prénom s'il te plaît, Lou. On le disait, on vous décrit en ce moment là les étudiants comme d'affreux monstres qui veulent être ultra violents. Est-ce qu'on peut rappeler la réalité des choses?
Ben, moi je trouvais que c'était important en fait de rappeler que nous on se mobilise pour la paix et contre un génocide qui est en train de se passer à Gaza, et que justement c'est important de comprendre ça, que là on nous fait passer pour des personnes qui sont violentes, pour des agresseurs et tout ça, alors que en fait c'est pas nous les agresseurs. Enfin, je trouve que c'est complètement retourner la situation, c'est montrer que en fait là en tant que mouvement étudiant on est en faveur de la paix et contre un génocide qui est en train de se passer, et que le mouvement étudiant historiquement en fait il se mobilise pour la paix. On l'a vu, on parlait du Vietnam par exemple, mais aussi par rapport à la guerre d'Algérie. Et on voit bien que nous, on veut bien montrer que les étudiants et les étudiantes, ils sont là, elles sont mobilisées vraiment pour la paix, et qu'en fait, ce traitement médiatique est en train de complètement retourner la situation. Et aussi, je voulais bien rappeler que là, on est en train de créer un mouvement qui est pacifiste, et que nous, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer.
Je le rappelle, on s'était donné rendez-vous à la base pour un petit live à 17h pour un jeu de rôle à la Sorbonne, et puis finalement on s'est dit qu'on allait, avant de faire ce live, donner la parole aux étudiants qui sont mobilisés sur la question palestinienne dans toutes les facs de France et notamment à Paris. On était donc devant le centre universitaire de Tolbiac et on s'est baladé. Je me permets aussi de rappeler qu'on est passé un moment devant le resto, l'ancien resto U des camarades étudiants de Tolbiac, resto qui a fermé depuis 2 ans, et maintenant ils ont des cafettes, ils ont plus de resto. Bon, voilà, ça c'est un petit process qui avance petit à petit, et ils ne sont pas mobilisés que sur la question palestinienne, on en a parlé au tout début. On a marché, on a bien marché, hein, ok. Moi j'ai une petite question, et là vraiment, qui veut répondre le fait, au-delà de votre mobilisation, au-delà de votre engagement syndical, est-ce que vous êtes engagé politiquement? Est-ce que certains veulent m'expliquer s'ils souhaitent voter ou non aux européennes? Sans nous forcément dire pour qui, s'ils veulent le dire, ils le peuvent. Usul dit qu'il faut le dire. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Vas-y, je t'en prie. Et on avance en même temps.
Moi je voulais parler par rapport aux européennes, tout ça, voilà. Je disais qu'il y a eu un gros mouvement, et ça c'est super pour parce qu'il y avait beaucoup de gens, surtout de jeunes en fait, parce que souvent c'est on dit que les jeunes votent pas, mais nous en fait sur les facs on voit qu'ils sont mobilisés, du coup il suffit vraiment parce que c'est pas facile souvent,
bien sûr.
Et du coup il y a eu un mouvement du coup pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, tout ça.
On rappelle que vous pouviez le faire en ligne jusqu'hier et vous pouvez le faire en mairie jusqu'à vendredi soir si c'était pas
exactement
fait.
Et du coup nous par exemple, militants dans des organisations étudiantes, on connaît tout ce qui est très basse participation sur les élections. Voilà, ça nous arrive par exemple aux élections Crous, il y avait des scores historiques de participation qui étaient genre de 13%. Ça me paraît très peu, mais c'est historique vraiment.
Ok, d'accord. Voilà. Je m'en rends pas compte, moi.
Exactement. Et du coup, en fait, c'est des élections qui sont ultra importantes, surtout quand on voit par exemple chez les jeunes. Il me semble qu'il y avait un sondage qui disait que de 18 à 25 ans, c'était 44% pour le Rassemblement National et Jordan Bardella.
Comment tu réagis toi face à ça?
Je suis outré que c'est des gens qui vont directement contre nos idées et contre la jeunesse, et en général, surtout sur les personnes racisées par exemple, ou alors sur les personnes immigrées, voilà, sans papier. Nous, on soutient par exemple tout ce qui est étudiantes et étudiants immigrés. En tant que syndicat et organisation étudiante, on les aide par exemple à s'inscrire à la faculté parce qu'il y a beaucoup de... Du coup, de blocage par rapport à la fac, voilà.
Toi, tu comptes voter le 9 juin?
Oh oui, complètement.
Ok, non, mais c'est vrai.
Ouais, tu penses pas que le pays, il est finito ou pas?
Je sais que c'est notre discussion, mais
déjà... Mais en vrai, moi, du haut de mon grand âge, je vois ça complètement partir en couille. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours vécu dans ce pays, dans cette ambiance-là, comme
c'est
ça.
C'est ça.
Je sais pas si vous avez vu, mais moi, je suis de la génération qui, en 2002, il y a Le Pen au second tour, tous les jeunes sont dans la rue.
Voilà, c'est ça.
J'entendais les chiffres ce matin. On parlait du RN, à l'époque, le FN fait 5% chez les jeunes. chez les jeunes. Et maintenant, comme tu l'as dit, maintenant on est autour des 40 et tout, donc qui est pourtant, c'est relativement terrifiant. Et comment vous arrivez à trouver de l'espoir là-dedans? Parce que moi, j'ai un peu des fois, j'ai des coups de mou, tu vois.
Bah, je pense que vous comme moi, c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on milite pour parler aux étudiants, pour vraiment leur faire comprendre que c'est pas du tout dans leurs intérêts de voter pour ces gens-là qui sont, en général, il y a des gros racistes, des gens d'extrême droite qu'on repousse.
Ouais.
Mais chez les jeunes en ce moment surtout, c'est marrant parce que souvent à l'époque on disait par exemple quand on est jeune on est à gauche mais après on devient de droite, maintenant même quand on est jeune on devient de droite, voilà. Donc c'est assez terrifiant, mais même sur les facultés on arrive franchement à convaincre, mais c'est compliqué quand même.
Et on est où là, tu sais, j'ai rien compris moi.
Du coup on est au campus Grand Moulin d'Université Paris Cité.
D'accord.
Voilà. Paris 7 il me semble, voilà. Et du coup là on va rejoindre du coup des étudiants qui sont mobilisés du coup pour la Palestine.
Tu les connais, ils sont sympas?
Ils sont sympas.
Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va très très bien. Désolé pour la pluie, on vous a mis un peu la pluie.
Alors
oui, à l'écran en particulier.
Bonjour, alors nous on a déjà pas mal discuté un peu avec les autres. On avance, ouais. On va rejoindre les gens en même temps.
Plutôt le côté.
Par l'autre côté, pense. D'accord.
C'est plutôt le côté. Donc bienvenue à Grand Moulin pour le chat.
Ouais, présente-nous, qu'est-ce qui se passe ici?
Présente-toi.
Moi je m'appelle James, je suis au point levé.
Ah, toi aussi,
coup, et voilà. On a participé.
Je tombe que sur eux. C'est
à
fou.
La création du comité Palestine.
Il y a d'autres camarades de quoi? Bah oui, mais apparemment on va bloquer là. Il y a d'autres trucs qui se bloquent là-bas. Tout est bloqué partout.
Mais ça bloque plus.
Ah, ça bloque derrière la porte là-bas. On va aller en direct du blocage.
Donc en gros, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait une AG mardi. On a décidé de faire une journée un peu de mobilisation sur la Palestine, notamment en faisant des tours d'amphi. Et ce qu'on a fait, c'est une déambulation. Alors, dans les bâtiments de la fac.
Ouais, des tours d'amphi, notamment. C'est-à-dire que tu rentres dans l'amphi et quand il y a cours, que le prof soit d'accord ou pas.
Oui, l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire un peu d'essayer de sensibiliser les étudiants sur la question palestinienne parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un soutien passif sur la question de la Palestine, mais qui ne se transforme pas forcément sur la mobilisation, parce qu'il y a une peur importante au niveau de la répression, quoi.
Et il y a quand même.
Mais il y a un soutien qui est important. Enfin, on a été applaudi dans certains amphis. Je dirais pas tous les amphis non plus, mais on a été quand même applaudi. Mais il y a surtout une peur de se mobiliser, comme on peut le voir, enfin, sur les soutiens à la Palestine en général, quoi.
Bon là, ça gueule là.
Je reprends le micro pour le live. Donc on était devant le campus de Tolbiac, on arrive ici là devant un campus de l'université Paris Cité, et comme on peut le voir là devant l'université, on a des étudiants qui sont mobilisés et qui sont en train de chanter un blocage là devant. On va se rapprocher. On essaye de faire cela tant que faire se peut. J'espère que vous m'entendez le live. J'espère que vous êtes mobilisés. On a plusieurs étudiants là qui sont mobilisés. Je vais vous dire qu'il y a peut-être 100 étudiants, 150 étudiants. T'es meilleur que moi en comptage.
Ouais, mais moi j'ai envie de dire là, profitons aussi, taisons-nous un peu. Il y a des slogans, on peut regarder,
bien sûr,
faire quelques images. Parce que en fait, on entend beaucoup de on entend des slogans horribles. On entend ça sur les plateaux de télé. Or, écoutons là les slogans. Est-ce qu'il y a des trucs horribles? On peut se rapprocher un peu, peut-être.
Gaza, la jeunesse est avec toi.
Et Gaza,
la jeunesse est avec toi.
Et Gaza,
la jeunesse est avec toi.
Et Gaza,
la jeunesse est avec toi.
Et Gaza,
la jeunesse est avec toi.
Et Gaza,
la jeunesse est avec toi.
Et Gaza,
la jeunesse est avec toi.
Et Gaza. Et Gaza.
La jeunesse est avec toi.
Et Gaza.
La jeunesse est avec toi.
Et Gaza.
La jeunesse est avec toi.
Et Gaza.
On le voit, plusieurs étudiants sont mobilisés. On va donner la parole aussi à d'autres étudiants qu'on n'a pas entendus depuis tout à l'heure. On a aussi des personnes qui ne sont pas engagées dans un mouvement, dans un syndicat, et qui veulent prendre la parole. On m'a dit que ça arrive incessamment sous peu. Voilà, mon travail est un peu de meubler ce live. J'espère que vous êtes mobilisés là sur le chat. N'hésitez pas, j'essaie de regarder de temps en temps s'il y a des questions et on va essayer de les poser pour vous.
Alors, il y a des camarades qui sont super chauds là.
Ok.
Notamment pour parler du fait que les syndicats
c'est il y a des syndicats, on en a parlé, il y a le point levé, il y a l'autre, je me rappelle plus lequel, l'UNEF, oui, déjà aussi, et il y a aussi plein de non syndiqués.
Vas-y,
tu peux le prendre. Oui, voilà.
Ce qui s'est passé, c'est que à la fois à Tolbiac comme ici, ce sont des mouvements qui se sont faits de manière spontanée et autonome. Les syndicats ne se sont pas organisés avec nous, ce sont vraiment des autonomes qui sont venus et qui ont bloqué, qui ont manifesté, qui ont crié. Et les syndicats ne sont arrivés qu'à la fin. Certes, les syndicats ont aidé, mais les syndicats n'ont pas eu leur mot dans les blocus. Et la plupart n'étaient même pas d'accord pour ça au départ. On remercie les syndicats, mais il faudrait quand même rappeler que les autonomes sont majoritaires dans ces actions. Et les autonomes sont les principaux lanceurs de ces actions. Ça serait bien de le rappeler. Ensuite, les autonomes ont des revendications aussi, qui sont les mêmes que les syndicats. Le fait que les partenariats avec les universités israéliennes soient remis en question, le fait que des enquêtes soient menées sur ces partenariats. On voudrait aussi que certaines entreprises privées se délogent de nos conseils universitaires parce qu'ils n'ont pas trop leur mot à dire. Par exemple, ici à Paris Cité, c'est L'Oréal qui a un siège à la CFVU de Paris 7. Et c'est la même chose à Paris 1. Il y a des entreprises privées qui ont des sièges au CFVU des universités, ce qui n'est pas normal. Donc je ne comprends pas ce qu'une entreprise de cosmétiques aurait à faire dans les plus hauts conseils de nos universités. Enfin, ce qu'on aimerait aussi, ce serait qu'il y ait une meilleure collaboration entre les élèves et les syndicats sur des questions qui nous concernent tous, et qu'il y aurait aussi une meilleure mobilisation des étudiants, et que l'État nous écoute et arrête de nous bâillonner. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des étudiants qui voulons montrer que nous sommes aussi du bon côté de l'histoire, et qu'un génocide confirmé par la CPI, un génocide confirmé par des juristes.
La CIJ,
ce serait bien qu'on arrête de nous baïonner pour des choses qui sont nommées par des instances supranationales. À un moment, on se fonde sur des données, on se fonde sur des accords, sur des instances, et on n'est pas des sauvages qui crions pour le plaisir de crier. La plupart d'entre nous.
Par contre, vous criez, hein.
Ça c'est clair. Mais pour la plupart, nous sautons des examens, nous sautons des cours, nos partiels arrivent bientôt. Moi par exemple, mes partiels.
Vous sautez les examens, c'est-à-dire ouais. Là tu fais sauter les partiels.
Bah oui, par exemple, mon partiel d'aujourd'hui a été annulé, mon partiel de mardi a été annulé. J'ai partiel à partir du 13 mai. Certains ont vu leur partiel déplacé dans d'autres campus, par exemple à Sensier. Donc on va s'éloigner,
ne serait-ce que pour que moi je vous entende, voilà. Et que nous on s'entende. On va sur le trottoir d'en face et. Okay. Ouais, on va faire ça. Parce que là, c'est bon, vous avez bien entendu les slogans, je pense.
Donc,
oui, dis-moi. On ne
fait pas ça pour le plaisir de manifester, parce qu'on a des choses à perdre nous aussi. Mais cependant,
on est à la porte de derrière du truc.
Oui, on est à la porte.
Parce que là, ils ont fermé.
Oui, ils ont enfermé leurs étudiants des deux côtés.
Les
étudiants sont enfermés. Il faut savoir que c'est contre la loi, parce que le plan Vigipirate impose aux universités et à tout bâtiment une entrée et une sortie de part s'il y a un attentat ou un incendie. Sauf que là, ils viennent de l'ouvrir. Mais par exemple, à Tolbiac, c'était pareil. On était bloqué à 1000 dans.
Ah non,
dans
ils ont ouvert et refermé. Voilà. D'accord.
Mais à Tolbiac, par exemple, mardi, on était enfermé à 1000 dans la fosse, sans possibilité d'entrée, sans possibilité de sortie. Et lorsqu'on l'a dit à des médias, la fac s'est très très vite empressée.
Et il y avait eu des interpellations à ce moment-là ou...
Non, parce qu'on est resté majoritairement pacifiste. On s'assied juste dans la fosse et on manifestait, on scandait des slogans, comme ici d'ailleurs. Hein. Même si les flics ont fait des petites rodes. Ici, ils sont venus en camion. À Tolbiac, ils sont venus 2-3 fois avec leur moto. Pour essayer un peu de nous foutre la trouille, pour dire des choses comme ça. Mais voilà.
D'accord. Tu voulais dire un mot aussi ? Vas-y, vas-y.
Moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que. Moi, ce qui m'énerve, c'est juste de voir des personnes importantes de syndicats venir à chaque fois quand il y a les caméras pour prendre la parole, pour dire oui, voilà, on a fait ça, on a réussi ça. Mais quand moi, je viens les voir pour leur dire venez descendre l'étape, venez bloquer avec nous, ils sont jamais là, ils veulent pas descendre. Et donc, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que bien sûr, dans le mouvement, il y a des syndiqués, il y a quelques syndiqués, mais majoritairement, c'est des non-syndiqués comme moi, par exemple. Et oui, ça m'énerve juste qu'ils soient là pour parler, mais quand il faut bloquer, ils ne soient pas là. Bien sûr. Oui, non, mais il y a plein de gens qui vont parler de ça aujourd'hui, mais je parle de mon avis.
Je pense qu'on aurait parlé parce que si vous parlez entre vous... Ouais.
Non, mais juste, là, c'est ma prise de parole, je parle de ça, mais il y a plein d'autres gens qui parlent, qui ont parlé de ce qui se passe. Oui, mais non, mais... Oui, non, voilà. Oui, je voulais juste prendre juste cette prise-là de parole, juste pour rappeler que, voilà, il y a plein de gens, et ça, ce mouvement-là, il appartient à aucun syndicat, mais aux étudiants de Paris en général. Mais bien sûr,
je ne mets pas d'ailleurs tous les syndicats dans le même sac, parce qu'il y en a certains qui sont plus là que d'autres, comme le Sapin d'ailleurs qui sont toujours là, les syndiqués qui sont toujours là. Mais bref, c'est juste que pour rappeler que bien ce mouvement n'appartient à aucun syndicat. Quoi. Voilà, c'est...
Voilà. Rapidement, Irène, s'il te plaît. Ouais, je t'en prie.
Moi, je veux bien réagir là-dessus parce que moi, je suis d'accord. Moi, je pense que les organisations, elles doivent être aux côtés des étudiants. Enfin, moi, je suis militante au point levé, justement. J'allais dire ça. Moi, je pense que les organisations étudiantes, elles doivent être aux côtés des étudiants, que c'est leur rôle, que c'est leur place, qu'au contraire, les organisations étudiantes, elles doivent pas chercher à instrumentaliser les mobilisations, mais au contraire, à les appuyer. C'est pour ça que, par exemple, nous, au point levé, on se sert des positions qu'on a dans les conseils. Par exemple, moi, je suis élue au conseil d'administration de Paris 8, et on se sert de nos positions dans les conseils pour toujours, toujours, toujours porter la voix des étudiants auprès des présidents d'université, dénoncer, en fait, ce qui se passe dans nos facs, faire la lumière sur ce qui se passe dans les conseils. C'est pour ça que, par exemple, qu'à Paris 1, nos camarades, en fait, ils ont utilisé leur position dans les conseils pour justement porter la voix des étudiants mobilisés de Paris 1 contre la réforme, en fait, sélective qui voulait être imposée par la présidence, etc. Donc, je suis d'accord que la place des organisations, elle est aux côtés toujours des étudiants, quoi.
L'idée de ce live, c'est de donner la parole aux étudiants qui sont mobilisés, ceux qui ne le sont pas aussi, bref, de donner la parole à tout le monde. On est avec Linia qui est élue étudiante. Léa va lui poser quelques questions.
Salut, salut. Tu peux nous dire pour qui t'es élu, pour quel tu représentes quelle organisation?
Alors je suis élue étudiante et élue étudiante de l'UFR LAC, ce serait bien de le préciser aussi. Ouais. Et je suis aussi du syndicat local de Paris Cité Écume, qui est sous l'Union étudiante. Okay. Donc voilà, et je suis étudiante aussi, ça okay. va de soi.
Et ça fait combien de temps que t'es mobilisée?
Ça fait un bon moment,
ouais.
Sur la question palestinienne, depuis que ça a commencé, je vais dire que je suis mobilisée, mais depuis ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, il y a eu plusieurs tensions,
ouais.
Et nous, en tant que syndicat local et tout, il fallait qu'on apporte notre soutien aux gens concernés.
Ok, et comment vous le faites, ça? Enfin, par quels moyens vous apportez le soutien?
On se mobilise.
Vous mobilisez?
Par l'action.
Donne-nous des exemples de mobilisation récente, genre aujourd'hui?
Celle d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça, c'est vous qui avez organisé ça?
C'est ça.
Ok, super. Et là, vous attendiez combien de personnes à peu près?
On l'a organisé avec tous les étudiants de Paris Cité, je tiens à le, okay. je tiens à le préciser. Ouais. C'est vraiment un travail collectif, c'est ouais. un effort collectif qu'on a tous fait pour en fait protéger, pour nous protéger, pour protéger les autres étudiants qui sont aussi nos camarades.
Quand tu parles de protection, est-ce que vous avez des menaces?
Oui, effectivement, en sortant du FR, un certain prof avait mentionné qu'il voulait faire une conférence contre l'antisémitisme, or que ce n'était absolument pas le cas. Il avait fait revenir des associations hyper problématiques et en sortie de conseil, il est venu nous voir. Oui, Écume, je sais qui vous êtes, je sais exactement ce que vous postez sur les réseaux sociaux, vous devriez faire attention. Et de là, une étudiante à lui, qui est dans ma licence, est venue nous menacer en nous faisant des remarques comme « Ouais, je vais lui péter la gueule » et « L'enseignant-chercheur, il a bien fait marrer, on va dire. »
Et comment vous avez réagi?
Sur le moment, avec tout ce qui s'est passé, nous, on est aussi humains, on est syndicalistes, certes, on est militants, certes, mais on est aussi humains, donc notre santé mentale, elle a pris un coup. Et ce qui fait que sur le moment, on a rien fait. Et là, en voyant la solidarité suite aux mobilisations à Sciences Po, suite aux mobilisations à la Sorbonne, etc., on a eu ce courage de nous aussi faire quelque chose et de nous faire entendre.
Ok, super. Et du coup, là, typiquement, la mobilisation d'aujourd'hui, c'est une petite mobilisation, c'est une grosse mobilisation par rapport aux anciennes mobilisations. Je vois qu'il y a plein ouais. de gens qui arrivent là aussi.
Alors malheureusement, on a dû la faire dans l'urgence.
Ouais.
La semaine prochaine, c'est les partiels, donc c'était hors de question qu'on impacte les étudiants dans leurs études ou autres. Du coup, on a fait l'AG vraiment en urgence ce mardi-là. On était très peu, on était une cinquantaine. Puis là, en faisant un débrayage, en faisant le tour des amphis, on a vu de plus en plus d'étudiants qui se mobilisaient et ça fait plaisir de voir ça.
Et vous serez à Paris 8 ce soir?
Probablement, on va essayer de s'organiser, là on est beaucoup.
Comment ça va s'organiser très concrètement, tu vois, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Qui a lancé l'idée de l'AG à Paris 8 Interuniversité? Qui va organiser ça? Qui va prendre la parole? Est-ce qu'il y a un ordre du jour? On peut s'attendre à quoi de ce soir?
Alors, il n'y a pas l'ordre du jour parce que je crois en la possibilité que les étudiants peuvent très bien agir collectivement sans pour autant qu'il y ait de débordement ou de violence comme les médias peuvent nous faire croire.
Et ouais, mais il y a forcément des sujets que vous, dont vous alliez parler. Genre, c'est quoi les prochaines actions? Il y a forcément des sujets sur lesquels
forcément,
vous avez prévu
mais
parler.
Là, mais là, nos efforts, ils sont surtout dirigés vers nos revendications. Donc, faire en sorte que les étudiants et les étudiantes de Paris Cité et des autres universités qu'ils ne soient pas réprimés pour l'opinion qu'ils ont, qu'ils ne soient pas réprimés parce qu'ils se mobilisent pour une cause aussi urgente. Et aussi pour les partenaires très problématiques de l'Université de Paris Cité, comme avec L'Oréal, comme avec, voilà, tant okay. d'autres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vient d'avoir la petite information qu'il y avait une évacuation à Paris 4 et que certains étudiants allaient se diriger direction à Place de la Sorbonne. Ça tombe bien, on y sera nous aussi.
Donc là, c'est marrant parce que faire des petites images. On parlait du fait que... il n'y avait pas de lieu et qu'ils ferment les lieux pour qu'il n'y ait pas de mobilisation. Et là, on est pile, vous voyez, on va d'un lieu à l'autre. Première fermeture là-bas, deuxième fermeture ici. On va les suivre pour voir où ça se passe après.
Pour vous rappeler, on a commencé donc, devant Tolbiac. On s'est dirigé ici devant le campus de l'Université Paris Cité. Et j'étais en train de parler avec des étudiants qui sont bloqués juste derrière la grille. Vous pouvez le voir là. Ils sont tout simplement bloqués et ils ne peuvent pas sortir. Je leur ai demandé s'ils souhaitaient prendre la parole. Certains ne souhaitent pas prendre la parole par peur, je pense, de leur administration. Donc voilà, donc c'est important de le mentionner. On m'a dit qu'on avait des étudiants avec leurs professeurs qu'on pouvait aller voir là-bas. Donc on va s'avancer tout tranquillement. En sécurité, c'est important.
Parce que mine de rien, c'est vrai que dans les facs et puis on va voir aussi dans les lycées si c'est aussi le cas à partir de demain. Je crois que l'idée, c'est de généraliser au lycée. Et en fait, c'est vrai que dans ces situations-là, les profs aussi ont un rôle à jouer.
Oui.
Et les profs jouent un rôle quand même. Il y en a qui, même aux États-Unis, on a vu des images d'arrestations de profs traînés par terre par les flics comme si c'était de vulgaires étudiants. Donc c'est intéressant de voir aussi comment
ils se positionnent. Est-ce que c'est nouveau cette répression-là dans les facs quand les étudiants se mobilisent?
Bah non, c'est pas nouveau.
Mais malheureusement, non.
C'est pas nouveau, mais enfin là, c'est particulièrement...
carabiné. On dit quoi aux jeunes? On leur dit vote et ferme ta gueule, c'est un peu ça.
Et puis oui, et vote, vote Valérie ailleurs, si possible. Parce que Gabriel Attal, il est jeune. Alors, qui c'est qui voulait
bonjour,
parler?
Bonjour,
qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour, bonjour. Non, pas elles. Elles veulent pas. Si?
C'est avec vous qu'on va parler? Ok, bonjour, comment ça va?
Ça va.
Attends, je vais péter mon micro.
On va vous demander de vous présenter d'abord.
Ok, bah, je suis Noya, du coup, L2 en psychologie.
Ok, et toi?
Moi je m'appelle Alice.
Ok.
Je sais pas qui je dois regarder.
Tu me regardes moi,
d'accord,
t'inquiète pas, on discute.
Alice,
ok, enchantée Alice.
Je suis étudiante en deuxième année de psycho.
Ok.
Voilà.
Ok, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Oui, près de la bouche, c'est important.
Désolé. Bah, du coup, il y a un blocus et on va rentrer.
Ok. Vous souhaitiez rentrer?
Oui, bah oui, on avait un partiel, du coup, ça aurait été mieux de rentrer quand même.
Okay. Est-ce que vous échangez donc avec les étudiants qui sont en train de bloquer ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, on est assez loin d'eux.
Ok, mais vous souhaitez l'échange? Vous souhaitez leur expliquer pourquoi vous voulez rentrer?
Non, pas spécialement. Je pense qu'ils savent qu'on a des cours ou des...
Tu penses que le discours est pas possible selon toi?
Ah si, je pense que le discours est possible, c'est juste personnellement...
Ok. Leur revendication, la mobilisation qui a lieu là dans toutes les facs de Paris et de France, toi c'est quoi ton sentiment face à ça?
Moi je suis totalement d'accord, après il y a quand même, on est en période de partiel, de période d'examen, donc pour les autres étudiants c'est peut-être pas très bénéfique, mais je soutiens la cause 100%.
Ok, donc c'est aussi ces voix qu'on voulait faire entendre, montrer qu'il y avait aussi des étudiants qui partageaient les revendications portées par les collectifs palestiniens dans toutes les universités, mais qu'il y avait aussi des étudiants qui voulaient passer leur partiel en toute tranquillité et qui se retrouvent malheureusement aujourd'hui bloqués. Vous êtes là depuis combien de temps? Explique-nous.
Depuis 15-20 minutes.
Ok. Le partiel était à quelle heure?
45.
14h45.
Il a été annulé, donc.
Ok, donc vous avez eu l'information de l'annulation du partiel.
Ouais.
Ok. Vous deviez tous la passer votre partiel là, tous ceux qui sont derrière?
Ah non, c'est pas notre.
Ok, c'est pas
nous,
avec
ça.
Vous, d'accord. Ok, et ça se passe comment là, avec vos camarades? Vous en parlez? C'est quoi là votre sentiment face à ce partiel annulé? C'est quoi la suite aussi? Qu'est-ce que vous dit l'administration?
Alors du coup, on échange avec surtout les étudiants qui sont déjà à l'intérieur des locaux, qui sont aussi bloqués. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop, on attend des informations.
Ok, bon, on vous a pas donné d'informations bien évidemment sur le report du partiel?
Non, bien sûr que non.
Est-ce que ça génère un petit stress?
Non, il a annulé le partiel.
Annulé, pas de report.
Ah non, il n'y a pas de report.
Annulé, d'accord. Oui. Moi qui n'ai jamais été étudiant, comment ça se passe quand il y a l'annulation totale d'un partiel?
Du coup, la note, c'est... Enfin, elle est calculée sur les autres examens.
Ok, bon, on oublie totalement cet examen.
Ouais.
Ok, bon, je sais pas c'est quoi votre sentiment. Est-ce que vous êtes triste? Je sais pas.
Non, plutôt contente, personnellement.
Ok.
Bah, on est un peu soulagés. C'est vrai que c'est une période hyper tendue de partiels, d'examens, tout ça. Et bien sûr qu'il y a une atmosphère hyper tendue politique et chez les étudiants en général. Et donc, enfin, tout ça, c'est un peu très gros pour nous. En plus, il y a tout le côté de toute la question de la précarité étudiante et tout. Enfin, ça devient énorme, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de tensions.
Une pression qui commence à être.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est assez dommage que ce genre d'événement tombe à ces moments-là, parce qu'en fait, en temps normal, on aurait été hyper heureuse d'aller les rejoindre et de participer et tout ça. Et en fait, ça tombe à un moment où juste il nous faut pas ça. Ça crée un obstacle alors que ça devrait pas l'être en soi. Et c'est, du coup, c'est un peu frustrant. Enfin, moi, je ressens grave de la frustration. Parce que j'aurais tellement aimé avoir le temps de manifester avec eux et voilà. Et donc c'est un peu frustrant et d'un autre côté c'est un peu énervant aussi parce que bah on a nos potes à l'intérieur qui peuvent pas sortir.
Avec qui j'ai discuté, certains qui n'ont pas voulu témoigner par peur de l'administration, est-ce qu'on peut comprendre aussi. Mais on a vu qu'il y avait plein de camarades étudiants qui étaient bloqués de l'autre côté.
Franchement bon, voilà. No comments.
Ok, no comments. No soucis. Bah merci en tout cas pour votre témoignage. C'est important d'avoir votre voix ici. Écoutez, bon, vous avez vu Jules, vous avez vu Léa Chamboncel, il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que, il y a aussi notre camarade chroniqueur chez Maxit, Safia Hippolyte, qui est avec nous. Comment elle va?
Ça va, je viens de sortir de la mobilisation à Nanterre, on ne s'arrête jamais, décidément.
C'est ça. Parce que c'est ce qu'on voulait expliquer, c'est que la mobilisation, elle n'était pas qu'ici, elle était dans toutes les facs de Paris, dans toutes les facs de France.
Exactement.
Toi, tu viens de Nanterre.
Ouais.
Là, t'arrives tout juste. Ouais. Je vous explique, je viens de voir Safia arriver derrière la caméra, je dis, bon, c'est le moment en français. Comment ça va déjà? Faut savoir qu'elle quand on s'est vu avec Safia, on était bloqué dans un TGV. Voilà.
Il y avait 3 heures de retard.
3h30. Bon, comment explique-nous la semaine?
Alors, écoute, cette semaine, très chargée, puisqu'en fait, moi, je tiens à remercier les camarades mobilisés de la Sorbonne qui ont décidé de prendre l'initiative, suite aux étudiants de Sciences Po, de camper à la Sorbonne-Mer. Et je crois que chez nous, chez les étudiants, ça a créé quelque chose d'important. C'est qu'en fait, on s'est dit, il est possible de se mobiliser malgré le contexte de répression et de diabolisation, en fait, que notre mouvement subit. Et à partir de ça, bah ouais, ça a clenché l'Assemblée Générale de 500 étudiants à la Sorbonne. Et nous, Nanterre, notre université, elle a une grosse histoire de mobilisation. Contre l'impérialisme, contre la guerre au Vietnam. Donc pour nous, ça faisait sens de poursuivre cette mobilisation.
Comment ça s'est passé là à Nanterre depuis le début de la semaine?
Alors à Nanterre depuis le début de la semaine, on a d'abord été déjà très attentifs à ce qui se passait dans les autres universités, parce que nous, Nanterre, c'est un contexte un peu difficile. On a des libertés démocratiques à la fac qui sont de plus en plus diminuées. On a moins le droit de tracter, moins le droit de s'exprimer en amphi. Le problème aussi, c'est qu'à Nanterre, il y a un contexte de répression qui est pas facile. On est une université dans les quartiers populaires. La mort de Naël, elle nous a beaucoup traumatisés. Mmh. Et donc, en fait, voir que des universités à Paris se mobilisent, ça nous a donné de la force pour aujourd'hui faire une journée d'action qui consistait à déployer une banderole sur le toit de l'université pour dire que les étudiants de Nanterre étaient solidaires de Gaza. Évidemment, on s'est fait kiffer, fumigène, slogan. Et puis surtout, on a fait une assemblée générale à 13h qui a donné des perspectives à la mobilisation sur Nanterre.
Qu'est-ce qu'il en ressort de l'AG?
Ce qu'il en ressort, c'est que nous, en fait, on a créé un comité de mobilisation pour la Palestine à Nanterre en lien entre les habitants de Nanterre et les étudiants. Et ça, c'est une première en Ile-de-France d'avoir des étudiants et des habitants qui se lient, en fait, pour la cause palestinienne. Et on s'est donné aussi comme point de rendez-vous et de mobilisation le 29 juin, la marche en fait en mobilisation et en hommage en fait à Naël, parce qu'on s'est dit que jusqu'au 29 juin, nous en tant qu'étudiants, on voulait aider la maman, donc Mounia de Naël, à faire en sorte que les étudiants sensibles au racisme, sensibles à l'anti-impérialisme, sensibles à la Palestine, de pouvoir se mobiliser. Ça va donner quoi? Ça va donner que nous, à Nanterre, on va poursuivre la mobilisation.
D'accord.
On va poursuivre des groupes d'action, tout sera annoncé sur les réseaux sociaux, et surtout, nous, on a donné un point d'accord à quoi? À dénoncer la criminalisation de notre mouvement.
C'est ce que je voulais t'en parler juste après.
On encourage aussi à tous les étudiants en France à poursuivre la mobilisation, notamment en s'emparant du campement et des tentes. Et évidemment, on appelle aussi à continuer à se mobiliser, même au-delà des partiels. Nous, l'échéance qu'on a, on va pas se mentir, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'on a des partiels, c'est la fin.
Oui.
Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, c'est pas parce que c'est la fin des partiels et la fin de l'année scolaire que la mobilisation, elle est terminée.
On avait là une discussion avec deux étudiants qui devaient passer leur partiel là à 45 et qui finalement, on vient d'apprendre l'annulation totale de leur partiel. Moi, je voulais te poser cette question parce qu'on a déjà parlé, toi et moi, sur la criminalisation là du mouvement, de toutes ces voix de la lutte, palestinienne, de toutes ces voix palestiniennes. Il y a aussi cette diabolisation et ce procès toujours en antisémitisme. Comment t'expliques aujourd'hui cette réaction à la mobilisation parce qu'en réalité c'est la seule réaction que nous opposent les politiques et administrations aussi des fois, certains professeurs aussi des fois, face à la mobilisation.
Je te remercie pour ta question parce que là pour le coup, étudiants et professeurs, on est dans le même bateau d'avoir peur de parler de ce qui se passe à Gaza, d'avoir peur d'utiliser le mot génocide, d'avoir peur de se mobiliser. La répression et la criminalisation en antisémitisme, ça a beaucoup contribué à faire taire. Je tiens à dire une chose, c'est que la mobilisation dans les facs, elle est extrêmement progressiste. Moi, j'ai vu des comités palestiniens se saisir de toutes les questions de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre l'islamophobie, de lutte contre le sexisme aussi au sein de nos instances militantes. Et que cela, moi, je le dis aussi en tant qu'étudiante juive, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que ces questions, elles étaient prises en charge. Et moi, ce qui me fait très peur, et je tiens aussi à m'adresser en tout cas aux étudiants juifs, c'est n'ayez pas peur de venir, n'ayez pas peur de vous mobiliser. Premièrement, quand j'ai vu, moi, la cabale médiatique qui s'est déversée sur les étudiants de Sciences Po quand ils ont utilisé les mains rouges, alors qu'on sait que les mains rouges, ça a donné lieu de tout temps à la dénonciation de nos gouvernements ont du sang sur les mains. Par exemple, en Israël, le Radical Bloc de Tel Aviv, c'est un groupe militant que je suis beaucoup en Israël, ils ont mis du sang sur leurs mains et ils ont déployé une banderole pour dire « Bibi, you can hide, you are committed a genocide ». Donc « Bibi, tu ne peux pas te cacher, tu es en train de commettre un génocide ». La symbolique des mains rouges, c'est de dire « Nous avons du sang sur les mains, nous dénonçons un génocide » et à aucun moment dire que nous, on revendique le massacre de telle ou telle personne à Ramallah ou ailleurs. Et en plus, on est des étudiants français. Donc en fait, ça veut dire nous renvoyer en disant « Ouais, Rima, Hassan, si on traduit ses tweets en arabe, ça veut dire, est-ce qu'on peut arrêter le racisme anti-arabe et l'islamophobie 2 minutes dans ce pays et arrêter aussi d'opposer les militants, la communauté musulmane aussi à la communauté juive? Moi, c'est un truc qui me rend particulièrement, particulièrement malade. Et en plus, moi, ça me rend ouf parce que tout ça, c'est pour nous faire taire alors que je trouve que nos mobilisations sont archi-progressistes.
Pour rappeler, parce que peut-être que certains n'ont pas suivi, Rima Hassan, que l'on a déjà reçue dans Backseat, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés palestiniens, aujourd'hui candidate aux élections européennes sur la liste de Manon Aubry, a eu un procès pendant une interview là en début de semaine sur France 2 où on lui a reproché donc ses mains rouges en la ramenant à ce qui s'était passé à Ramallah.
Non, on lui a reproché d'avoir utilisé le mot soulèvement dans un tweet.
Soulèvement aussi.
Et la journaliste a dit, mais si on traduit
ça,
en arabe...
Ça c'était en public Sénat, voilà. Ouais. Donc si Manuel Bompard était invité, on lui a dit oui, mais Rima Hassan a appelé au soulèvement la semaine dernière quand il y avait les mobilisations devant Sciences Po, mais soulèvement ça veut dire intifada en arabe. Donc c'est pour juste vous mettre des petits points de contexte. C'est quoi la suite de la mobilisation, Safia?
La suite de la mobilisation, déjà, ça va être de se coordonner. Moi, je pense aussi entre facs. Moi, je vois deux
échelles.
Comment
ça se passe là maintenant, la coordination?
Là, va y avoir une assemblée générale interfac en Ile-de-France en fin d'après-midi. Je pense qu'elle va avoir lieu à Paris 8, mais le lieu est inconfirmé parce qu'à Paris 8, notamment, là, on a de superbes images qui nous parviennent. En fait, il y a un campement qui a lieu actuellement à Paris 8. En fait, je pense que c'est important de le souligner. Et nous, on va toutes et tous donner rendez-vous là-bas pour un peu coordonner la mobilisation à l'échelle d'Ile-de-France et essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans les autres universités en France. Moi, juste, ce qui me met du baume au cœur, c'est que malgré la fin de l'année, notre mobilisation, elle n'est pas finie. Pourquoi ? On est dans un contexte où les étudiants de Paris 1, notamment, que vous avez suivi aujourd'hui, ils se sont pris une réforme immonde et grâce à leur mobilisation, elle n'est pas passée. La mobilisation consistait à supprimer leur droit de rattrapage, supprimer leur droit de compensation, supprimer leur droit d'absence. On est dans un contexte où nous avons faim, putain. C'est l'inflation. Et où en plus de ça, on est en train de nous dire non. Vous allez devoir vous habituer à voir un génocide en direct sur vos téléphones. Non, vous allez devoir vous habituer à ne pas parler de la Palestine dans vos universités. Non, vous allez devoir faire comme si vous avez des camarades à l'international qui n'ont plus le droit d'étudier parce qu'ils sont morts. Mais moi, je refuse de vivre dans un monde où on normalise cette déshumanisation. Je refuse de vivre dans un monde où on normalise l'escalade militaire. Je refuse de vivre dans un monde où on préfère donner de l'argent à l'armée plutôt qu'à l'université, alors que nos profs, nos doctorants, nous, en tant qu'étudiants, on a besoin de cet argent pour pouvoir continuer à faire de la recherche et pouvoir continuer à étudier.
Ce truc-là de toujours ramener les étudiants à un truc, à un mouvement violent, à une action violente, non pacifique, qu'est-ce que t'en dis, toi, face à ça?
Bon, moi, je pense que, premièrement, ça reflète la peur du gouvernement.
Okay.
C'est-à-dire que devoir tout de suite réprimer, tout de suite voir des camarades étudiants qui se font traîner par terre, par les cheveux, moi, j'ai été archi choquée.
On a vu l'évacuation à la Sorbonne,
ouais,
là.
Elle était archi violente. Tout de suite nous faire des procès, soit en violence, soit en racisme, soit en antisémitisme, ou que sais-je, soit en anti-républicain. Enfin, en fait, on s'en fout. Si tu veux, moi, ça me surprend pas. il y a une conséquence, c'est que du coup, ça dissuade des gens de parler, de se mobiliser. Donc nous, en tant que militants, ça nous demande un suprataf pour dire aux gens, vous êtes légitimes à vous mobiliser pour la Palestine. Et ensuite, moi, ce que je vois, c'est que, ayant conscience que ça fait peur au gouvernement, s'il vous plaît, camarades, ayez conscience qu'on a une force d'impact dans nos universités, mais pas que, parce que justement des travailleurs sont prêts à se mobiliser, des gens dans leur quartier sont prêts à se mobiliser, ça va devoir certes être un effort de créativité pour penser à des actions, certes ça va devoir être un effort de coordination, mais on en est totalement capable.
Merci Safia.
Merci à vous l'équipe et surtout bah, rendez-vous pour l'émission de ce soir.
Merci beaucoup. Fais un plaisir de retrouver Safia. Moi, on m'a dit que j'allais retrouver Safia pendant le live, j'étais archi content. Usul est avec moi.
Oui, il y a encore des jeunes là qui ont des trucs à dire.
Oui, sûrement dans le coin. Il y a plein de choses à dire,
Usul. Il y a un jeune là, il dit qu'il a des revendications.
Un jeune, on a dit.
Bonsoir, je suis le jeune. Alors, en fait, moi je trouve.
C'est les revendications.
C'était un peu con parce que tout à l'heure il y a eu tout un débat sur organisation par organisation. Voilà. En fait, c'est surtout des gens qui n'étaient pas de la fac qui sont venus avoir ce débat ici. Donc ici, en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a décidé. Ce qui se passe aujourd'hui, on l'a décidé en comité mardi. Donc on s'est organisé comme on a pu et on a dressé une liste de revendications qui sont directement dirigées contre notre fac parce que voilà, on estime que en fait on peut faire un bras de fer à notre échelle ici. Et du coup, la première des choses, c'est que l'université Paris Cité, elle doit rompre tout lien avec l'entreprise L'Oréal, qui est vraiment implantée en fait dans les colonies en Cisjordanie notamment, parce qu'en fait, il y a la directrice internationale des programmes sciences de la Fondation L'Oréal, Elisa Simone Pietro, qui est au conseil d'administration et au conseil d'orientation stratégique de notre fac. Donc en fait, à partir de ce moment-là, au-delà du fait qu'il y a
revendications qui ont été élaborées,
voilà, qui ont été décidées collectivement. Voilà, donc il y a eu une, voilà, effectivement, c'était l'AG qui était mardi, et c'est une liste, c'est cette liste de trois points qu'on a décidé de dresser. Donc voilà, on estime que ces partenariats privés là, ils n'ont pas lieu d'être. C'est voilà.
Donc l'autre, ça c'est le premier point.
C'est le les premier partenariats point. Privés. Partenariats privés. Ensuite, le deuxième point, c'est sur le boycott académique du monde, du monde académique israélien dans son ensemble. Donc c'est notamment, il y a un programme qui a commencé en 2019 qui s'appelle le French Israeli Laboratory of Foundations of Computer Science. C'est un programme de coopération scientifique avec des universités, notre université et des universités israéliennes, notamment l'université de Tel Aviv. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le boycott universitaire, c'est pas juste parce que la production scientifique est faite là-bas. Concrètement,
c'est les aussi parce que ça va servir à développer des technologies de répression ou des armes.
Les facs en fait israéliennes, elles sont en lien direct avec avec l'organisation militaire, quoi.
Et le troisième point.
Et notamment l'université de Tel Aviv. Elle a développé la doctrine d'AIA qui préconise en fait de cibler les civils et
Oui, parce qu'on a vu que maintenant il y avait des histoires d'IA établissaient un ratio de 1 pour 20 pour un jeune homme en train de prendre les armes ou je sais pas quoi. Enfin,
ouais, voilà,
il y a des pertes de civils.
Une rationalisation
de la violence
qui se fait dans les universités en fait. Mmh. Et du coup, cette doctrine, elle a été établie par université avec laquelle. Enfin, qui est en accord avec.
D'accord, super, ok, d'accord.
Donc c'est très précis. C'est un truc précis. Oui. Et enfin, la dernière, c'est évidemment de garantir la sécurité et la liberté de s'organiser des étudiants qui se mobilisent contre le génocide palestinien, parce qu'aujourd'hui, on a fait un petit tour du campus, ils nous ont fermé toutes les portes quand on arrivait, et là, ils enferment des étudiants, je pense que c'est ça le truc qu'on retiendra d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont enfermé des étudiants dans la fac, parce qu'ils avaient peur de nous pendant peut-être une heure, deux heures, qu'on est là. Donc, nous, on mobilise, en fait, on demande le droit de se mobiliser, qu'il soit garanti.
C'est très concret.
Et notamment contre les pressions, en fait, on a eu des attaques, en fait, directement dirigées contre nous, de sionistes, en fait, concrètement.
Il y a eu des violences.
On a le droit de, il y a eu des provocations, des intimidations, partout sur le campus. Donc, c'était nos trois points.
Et, très bien.
De base, on part de ça et que c'est un mouvement à échelle globale, mais que chaque université, il faut faire le travail d'aller chercher, ce qu'on peut mettre pour comment on peut faire le bras de fer avec notre fac, avec notre université, et aller chercher en fait tous les trucs qui cachent. Et ce manque de demander en fait de la transparence sur tous ces trucs-là et les faire cesser.
Très bien. Voilà. Au moins c'est très clair. Je te reprends le micro.
Ouais, merci.
Bon courage à vous pour la suite de la mobilisation. Nous on se dirige progressivement quand même vers la fin du live, n'est-ce pas, Malek ?
Exactement.
Enfin, la fin de ce live, si
tu viens sous parapluie ou ça te va, toi? Non, c'est
oh,
bon.
Pff, okay, moi, tu sais, moi je viens de Normandie, moi.
Ouais, c'est ça, j'avais oublié. Les amis.
Ça, c'est vous... pas, c'est une petite pluie, ça.
Ouais, c'est rien. Ouais, moi, désolé, moi j'ai une coupe de cheveux à garder parce que ce soir j'ai une élection présidentielle, je te rappelle.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Parce que les amis, on se retrouve tout à l'heure à 17h. Pour un live à la Sorbonne avec Fibre Tigre et Libé, on sera candidat à l'élection présidentielle, ma chère Léa.
Tout à fait, tout à fait, et pas pas des moindres. Hein. Et aussi petit coucou à Jean qui nous rejoint plus tard, mais voilà, qui a pas pu être là pour ce live, mais on pense fort à lui et merci de nous laisser bah à l'antenne un peu. Et de donner la parole aux étudiants qui sont mobilisés.
Ouais,
et
puis l'idée c'était que aussi, là on va au grand amphi de la Sorbonne, une Sorbonne qui a été évacuée un peu plus tôt, donc c'était de dire d'accord, mais alors à ce moment-là on fait autre chose aussi, et donc on va dans la rue, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, et on espère que ça servira à quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de monde qui fait ça, qui prend le risque de...
Hein, c'est ce que je voulais dire, c'est que
aussi, hein.
Peu sont les médias à donner la parole comme ça aussi directement aux étudiants. On a découvert leurs propos en même temps que vous. L'idée n'était pas du tout de contrôler ou de brider ce qu'ils voulaient dire. On salue évidemment notre copain Jean, comme il le sait à chaque fois, l'antenne est bien tenue. Hein, on s'en occupe bien. Ce que je voulais aussi vous dire, les copains, c'est que donc juste après, on se retrouve à 17h donc pour le jeu de rôle avec Jean, toute l'équipe de Backseat, Libération et Fibre Tigre. Après, vous aurez le grand oral des candidats aux élections européennes avec Libération et notre ami Jean Massé toujours. C'est pour ça, il a une grosse soirée, le pauvre. Moi, ce soir, j'ai le match de l'OM. Hein, c'est autre chose, mais c'est pour ça qu'on s'est occupé de ce live. L'idée aussi était de donner la parole à tous les étudiants. Vous avez vu, tout le monde n'était pas forcément sur la même ligne. Certains avaient envie de passer leur partiel aujourd'hui et n'ont pas pu le faire. Et on peut
c'est,
dire
que... c'est toujours les mêmes trucs. Oui. Hein. C'est toujours les mêmes
mais
trucs.
Mais ils ont pu le dire librement à notre micro et c'est le plus important.
Et puis il y a ceux qui sont syndiqués, et puis il y a les totos qui disent qu'il n'y a pas que les syndiqués.
Voilà.
Et puis moi, c'est cette ambiance-là là, qu'on était content de vous faire découvrir aussi.
Les amis, on espère que ça vous a plu. Merci Léa, merci Usul. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour ce jeu de rôle. À très vite, prenez soin de vous. À ciao.